Tournez la page, votre émission littéraire animée par Mathieu Noirot.
Eh oui, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue si vous prenez l'antenne à l'instant, ce dont je ne doute pas que vous nous écoutez avec fidélité. N'oubliez pas que REC est votre radio. Voilà, et je suis aujourd'hui avec un auteur de Saint-Savin, donc un voisin, Bruno Chiari. Bonjour.
Bonjour Mathieu.
Alors, il faut bien parler près du micro.
Voilà. Bonjour Mathieu.
Donc, comme je disais, un voisin, puisque Saint-Savin, c'est pas très loin.
Non, 18 km, je crois, à peu près. Ouais, juste pas, comme ça.
Même, ouais, ouais. Même pas. Donc, je vous reçois car vous êtes l'auteur donc, de trois ouvrages. On va commencer par le premier qui s'appelle donc « États-Unis, Russie, je t'aime, moi non plus ». C'est bien trouvé d'ailleurs comme titre, aux éditions Baudelaire. Alors, ce livre, il a été édité...
En 2024.
Ah, c'est pas si vieux que ça.
Non, c'est 2024. Pas si vieux que ça.
Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie eh bien, de faire sur ce sujet?
Alors, déjà, il faut connaître un peu mon parcours à la base. C'est-à-dire que j'ai vécu longtemps aux États-Unis. D'accord. J'ai vécu un peu en Ukraine également. Mm-hmm. Et dès le début de l'année 2021, j'ai alerté l'Élysée. Car d'après moi, la Russie allait attaquer l'Ukraine. Donc j'ai écrit trois fois. La troisième fois, j'ai écrit environ trois mois avant le début du conflit pour même donner la date à laquelle ça se ferait. Voilà. Et alors, ce qui m'a amusé d'une certaine façon, c'est que lorsque j'étais à Odessa, je discutais avec une amie là-bas et elle avait de la famille en Russie. Et puis je sentais ses liens vis-à-vis de la Russie. Je lui dis, tu sais, tu ne devrais pas leur faire confiance parce qu'un jour, ils vont vous mettre sur la figure. Et elle m'a traité de propagandiste américain à ce moment-là. Donc, elle s'est fâchée, elle n'a plus voulu me parler. Donc, avant qu'elle parle, j'ai dit... Non, parce que pas propagandiste américain, parce que de toute façon, les Américains ne viendraient pas vous aider non plus. Donc, et lorsque j'ai vu que dès le 24 février 2024, la Russie avait attaqué l'Ukraine, et que j'ai entendu les réactions des spécialistes, entre guillemets, à la télé, qui disaient on ne l'avait pas vu venir, j'ai dit mais c'était clair comme de l'eau de roche. Et pour arriver à ça, je me suis appuyé sur trois choses. L'histoire, donc l'histoire de l'Ukraine, l'histoire de la Russie et l'histoire des États-Unis. Les différentes mentalités. Quand on connaît les Russes, quand on connaît les Ukrainiens, on sait que ce ne sont pas les mêmes personnes. La mentalité américaine également. Et les différents intérêts qui étaient en jeu. Et à partir de ce moment-là, bah, c'était évident. Donc je me suis trompé. Je dois l'avouer, je me suis trompé de 48 heures sur la date. C'est-à-dire que j'avais prévu le 22 février, c'était le 24. Quoi, mais...
Quelque chose près.
Quelque chose près, à trois mois à l'avance, c'était bon.
Et oui, cette pauvre Ukraine, puisque pour Vladimir Poutine, le premier tsar était donc les Russes de Kiev. Donc pour lui, l'Ukraine n'existe pas d'ailleurs, puisque c'est, si ma mémoire est bonne, c'était Lénine qui l'avait créé, si je ne m'abuse. Donc lui, il veut refaire en fait... l'empire des tsars, finalement.
Tout à fait.
Comment il s'appelait ? Staline voulait exporter le communisme. Lui, il veut revenir au tsarisme, à la grande Catherine, Alexandre, etc.
Tout à fait.
Voilà.
Mais lorsque vous parlez de Kiev, c'est bien de parler de Kiev, parce qu'il faut savoir que lorsque Kiev, au XIe siècle, existait, Moscou n'existait pas.
Oui, oui, oui.
Et la Russie n'existait pas. Donc, ouais. À la limite, je veux dire que c'est l'Ukraine qui a été, en tant qu'État ou nation, ouais. Et de façon en tant que peuple, qui existait avant la Russie.
Ah bah oui, puisque le premier tsar, c'était donc c'était à Kiev, il était basé à Kiev.
Donc, la Russie s'est créée par un schisme religieux. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a une... telle que ça existe à l'heure actuelle, il y a une partie des orthodoxes qui était affilié à l'époque déjà à la Turquie, ou à l'Empire ottoman, et qui était à Kiev. Et ceux qui étaient en désaccord avec ça sont partis vers le nord et vers l'est. En allant vers le nord, ils ont créé Moscou. Et ils ont créé la Russinie. Donc, c'était la petite Russie, en définitive. Ah oui, et à partir de ce moment-là, à la suite des différents empereurs, tsars et compagnie. Alors, au départ, c'était des empereurs. Tsar, le terme est arrivé un peu plus tard. Mais ça faisait référence à l'empereur César de Rome. Mmh. Tsar, c'est César en raccourci, en russe, en définitive. Et ils ont créé leur propre petite Russie au départ, et ensuite, à la suite des différentes invasions, ils ont envahi au fur et à mesure leurs voisins. Mm-hmm. Donc par la force, ils se sont agrandis, et c'est resté dans la mentalité russe. On prend tout par force, on fait de l'expansion par la force, on force les gens à devenir russes. Et on voit qu'à l'heure actuelle, au XXIe siècle, c'est toujours comme ça, quoi.
Ben, on revient d'ailleurs, quand on voit aujourd'hui la géopolitique, on revient un peu à l'époque des empires, puisque, que ce soit les Américains aujourd'hui, sont un petit peu expansionnistes aussi. Ils veulent le Groenland, ils veulent le Canada, ils veulent, ou la Chine, qui récupère tous ces possessions qu'elle avait dans le temps. On revient un peu au choc des empires, tout ça n'est pas fini, ça revient.
C'est ce que j'explique effectivement dans le livre.
Oui, c'est facile à lire pour tout le monde, c'est accessible à tous, pas aux néophytes simplement.
Les gens qui l'ont lu et qui sont venus vers moi m'ont dit que ça se lit comme un roman policier.
Donc. Oui, puis c'est rapide parce qu'il y a il y a 70 pages quoi, à peu près.
Oui, ouais. Alors ça c'est voulu. Oui. Pourquoi ? Parce que déjà à la base, avant d'être dans mon parcours, avant d'être dans la restauration pendant très longtemps, la restauration du reste explique mon raison. Je vous expliquerai ça un peu plus tard. Mmh. Mais j'ai travaillé dans l'informatique et j'ai présenté des gros projets à des grandes entreprises. Donc, quand vous faites la présentation de projet, vous devez être assez concis.
Clair, net et précis.
Pour qu'à la fin, les gens puissent retenir ce qu'il y a. Donc, il ne fallait surtout pas que je me dilue au niveau des informations, mais il fallait que je puisse donner des informations qui se lisent clairement et qui se retiennent très facilement. D'où l'épaisseur relative de chacun de mes ouvrages, en définitive.
Donc, c'est accessible à tous. Puis c'est par un petit prix, 10,50, ça va, c'est accessible. Il est disponible en librairie chez l'éditeur ?
Alors, il est disponible dans normalement toutes les librairies. Comme c'est du groupe Hachette, dire que vous les trouvez un peu partout. Moi, j'ai fait des séances dans les différents espaces Leclerc. Donc, vous les trouvez dans les espaces Leclerc. Mais vous les trouvez sur Amazon, vous les trouvez à la FNAC, vous les trouvez partout, quoi.
D'accord. Voilà. Alors, on va parler un petit peu de votre parcours, parce que vous étiez un ancien expert-comptable aussi. Vous avez été aussi dans la restauration, passionné de cuisine et aussi de logis.
Oui. J'aime la vie.
On peut en parler aussi. C'est bien de connaître un petit peu le parcours. Alors, qu'est-ce qui vous a décidé de venir à l'écriture, finalement, après tout ça ? Vous avez bourlingué un peu, quand même,
J'ai énormément bourlingué. Alors, j'avais un restaurant... Alors, je suis revenu en France en 2008 parce que ma famille, ma fille particulièrement désirait que je passe un peu de temps. Donc je suis arrivé ici avec deux valises. Je suis pas arrivé avec grand chose. Mmh. Et je suis arrivé ici pour 15 jours, 3 semaines pour passer des vacances, quoi, en définitive. Et puis une fois que j'étais ici, j'ai vu que ça se passait bien avec ma fille alors que j'avais pas trop de bons rapports au départ depuis longtemps. Et surtout, mes parents m'ont dit, si tu repars, tu nous tues.
D'accord, oui, c'est
donc, vrai. Donc, je n'avais pas le choix. Il fallait que je reste ici. Donc, à partir du moment où je reste ici, il fallait que je trouve quelque chose à faire. Comme j'avais un restaurant aux États-Unis, alors, je vais revenir un peu après, derrière, par rapport aux anecdotes de ce restaurant. Mais comme j'avais un restaurant aux États-Unis, j'ai dit, je faisais un peu de cuisine américaine aux États-Unis, cuisine française aux États-Unis, mais avec une consonance américaine par rapport au style de vie américain. J'ai dit, ici, je vais faire découvrir la cuisine américaine. Donc, j'ai ouvert un restaurant américain sur Montmorillon. Voilà. Donc, ce qui fait que j'étais le premier à faire des burgers ici. On faisait tout maison, contrairement à ce que certaines personnes disaient. Puis, j'ai fait découvrir des plats traditionnels que les gens ne connaissaient pas. Et 2017, je tombe gravement malade. J'ai failli mourir en 2017. J'ai fait une forme de Covid. Avant le Covid, ils ne savaient pas trop ce que j'avais. Mais je me suis retrouvé à l'hôpital. sous perfusion, sous moniteur cardiaque, sous oxygène, pendant 2-3 semaines à peu près. Puis ensuite, le temps de me rétablir, sous cortisone. Et j'étais sous cortisone comme ça pendant longtemps. Et que ce soit mon généraliste, mon ORL ou mon pneumologue, ils m'ont tous dit, si tu continues de travailler en cuisine, avec les vapeurs, en plus de ça, de graisse, des choses qu'il y a, tu crèves. Donc, tu ne peux pas continuer à travailler. Donc, j'ai demandé ma retraite anticipée, qui m'a été gentiment refusée, enfin aussi acceptée par le RSI, mais avec près de 40% de l'élection. Et j'ai dit, bon, ben, en attendant, je ne peux plus cuisiner, mais je peux peut-être faire autre chose. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire ? Et j'ai pensé à toutes les personnes que j'avais rencontrées justement en étant dans la restauration. Il faut savoir que, par exemple, en 2007, j'ai été invité à des petits déjeuners d'affaires avec, avec les démocrates. Donc j'ai rencontré Tim Walz, le colistier de Kamala Harris là-bas. Ça m'a permis de le rencontrer, de rencontrer l'appareil démocrate un peu dans la région, de discuter. J'ai été invité à la Maison Blanche en juin 2007, un dîner d'affaires avec George W. Bush également. Au restaurant, j'ai non seulement eu des politiques, mais j'ai également eu des militaires haut placés qui ont fait partie de l'OTAN avec qui j'ai pu discuter. Et je dis, le gros avantage, c'est quand les gens viennent et reviennent, que vous discutez avec, ils aiment bien manger, ils se lâchent un peu plus.
Ah oui.
Donc ça m'a permis...
Ça fait un réseau.
Exactement, ça m'a permis de monter mon petit réseau perso, en définitive, par rapport à tout ça. Je me suis dit, je pourrais peut-être l'utiliser, quoi. Et lorsque j'ai senti cette histoire d'Ukraine, par rapport à tout ce que j'avais entendu, ce que j'avais vu, et tout ça, vu ce qui s'est passé derrière, j'ai dit, ben, voilà, j'ai écrit à l'Élysée au départ 3 fois, à partir de là, je peux partir et puis écrire quelque chose.
D'où le livre, donc, États-Unis et Russie, je t'aime, moi non plus.
Exactement.
On va faire une petite pause musicale avec Claude François, Je viens dîner ce soir.
Ça faisait si longtemps que je n'entendais plus ta voix. Ça faisait si longtemps, dis, comment ça va? J'ai pensé à toi bien souvent, mais je n'osais t'appeler. Je croyais que tu m'en voulais, que tu m'avais oublié. Je viens ce soir, j'arrive à temps moi. Je viens dîner ce soir, tout comme autrefois. Je te vois déjà dans l'entrée, avec le sourire que j'aimais. Et j'aurais trop de mal à ne pas t'embrasser. Oui, je viens dîner ce soir, plus tard à 8 heures. J'ai bien changé, crois-moi. Je serai à l'heure, j'aurai tant de choses à te dire. Avant même le temps d'un sourire, je serai devant la porte de ta maison. Ça faisait si longtemps que je ne me dépêchais plus. J'ai quitté le bureau, me voilà dans les rues. Je me suis encore mal garé pour t'acheter des fleurs. Les roses rouges que tu aimais, tu vois, je n'ai pas oublié. Je viens dîner ce soir, j'arrive à temps moi. Je viens dîner ce soir, tout comme autrefois. Je te vois déjà dans l'entrée, avec le sourire que j'aimais. Et j'en ai trop de mal à ne pas t'embrasser. Je viens dîner ce soir, au plus tard à 8 heures. J'ai bien changé, crois-moi, et je serai là à l'heure. J'aurai tant de choses à te dire, qu'avant même le temps d'un sourire, je serai devant la porte de la maison. Ce soir, j'arrive à temps moi. Je viens dîner ce soir, tout comme comme autrefois. Je te vois déjà dans l'entrée avec le sourire que j'aimais, et j'aurais trop de mal à ne pas t'embrasser. Je viens dîner ce soir, au plus tard à 8 heures. J'ai bien changé, crois-moi, et je serai...
Tournez la page, votre émission littéraire
sur REC 103.7,
animée par Mathieu Noiraud.
Eh oui, Claude François, je viens dîner ce soir. C'était le 48e anniversaire en ce mois de mars de sa disparition. Oui, le temps passe vite. Je suis en compagnie donc de notre auteur de Saint-Savin, Bruno Chiari. Et on va parler de votre deuxième ouvrage, L'autant ce tigre de papier. Alors, nouvel ouvrage donc qui présente un petit peu cet organisme.
Alors. L'idée à la base, c'était que les gens qui ont lu le premier et qui ont aimé le premier m'ont dit d'avoir vu la guerre, que de l'avoir anticipé, c'est très bien, mais en définitive, qui pouvait l'empêcher et comment ça pouvait être empêché. Donc il n'y a qu'un seul organisme qui aurait pu empêcher cette guerre d'une certaine façon. Il y avait à la limite les États-Unis, mais c'est plus normalement l'OTAN. Donc à partir de ce moment-là, j'ai écrit cet ouvrage qui explique qui pouvait l'empêcher. Comment on pouvait être empêché la guerre, mais en plus de ça, j'ai même expliqué pourquoi ça n'a pas été empêché. Voilà. Et à partir de ce moment-là, il faut en arriver à décrire ce qu'est l'OTAN. Et là, à nouveau, je repars sur l'histoire de l'OTAN.
La création. Alors, on va peut-être dire quand même pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire OTAN, c'est l'Organisation pour le Traité de l'Atlantique Nord.
Tout à fait. Voilà. Voilà, donc il a été créé juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Parce que si à l'époque l'Union soviétique a été l'allié des États-Unis et puis notre allié durant la Seconde Guerre mondiale pour combattre les nazis, déjà il ne faut pas oublier une chose que je rappelle dans le premier livre.
Ce semble oublier Vladimir Poutine, parce que écoutez, il est le seul à avoir gagné contre le nazisme, alors que l'Amérique a fourni quand même du matériel, etc. Et d'ailleurs, on a une photo, j'ai vu ça dans un livre d'histoire, une photo de Khrouchtchev habillé tout en américain, avec treillis américain, jeep américaine, etc. Ouais, ouais. Donc ça la fout un peu mal dans le contexte.
Alors, c'est les Américains et les Anglais, puisque la plupart des bateaux qui ont servi pour aller jusqu'à Mourmansk pour approvisionner les Soviétiques étaient des bateaux anglais, justement. Donc, mais c'est vrai que sans l'argent et le matériel des Américains et des Anglais, les Soviétiques étaient très mal à l'époque. Et il y a une chose que Poutine oublie également, c'est qu'il y a eu le pacte de von Ribbentrop auparavant.
Oui, ça c'est...
Ils ont été l'allié des nazis pendant 2 ans, et ça, ils l'oublient un peu volontiers.
Oui, ce qui a un peu gêné aussi chez nous en France, le Parti communiste français.
Oui, ça l'a gêné qu'un peu, comme vous dites à moi.
L'OTAN, c'est vrai que pour beaucoup de gens, est-ce qu'il méritait encore d'être là, puisque c'était le pendant du pacte de Varsovie, si on se souvient bien, avec l'Alliance des Républiques de l'Est, qui ont disparu donc avec l'indépendance en 1991, mais qui est toujours là. Et d'ailleurs, notre président, Emmanuel Macron, avait dit qu'il était en mort cérébrale, juste un peu avant qu'il se réveille finalement. Ouais. Et aujourd'hui, il n'est plus du tout en mort cérébrale.
Hein. Ah non. Mais justement, je rappelle dans ce livre cet épisode justement de ce que dit Macron. Mais l'OTAN, justement, vous voyez, quand il y a un lien entre les deux livres, et du reste, j'ai une version anglaise qui va sortir, qui va être publiée, il regroupe les deux bouquins en même temps.
Oui.
Les États-Unis, ici, j'étais moi non plus, l'OTAN, ce tigre de papier. En l'an 2000, exactement, lorsque je suis arrivé aux États-Unis, j'avais pas encore de travail. J'ai commencé à écrire un premier bouquin qui n'a pas été publié derrière, et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai commencé à écrire un premier bouquin parce que j'ai dit le mur de Varsovie, le mur de Berlin est tombé. Donc, ça pose un problème aux États-Unis, au complexe militaro-industriel américain et en définitive la raison d'être de l'OTAN, parce qu'il n'y a plus d'adversaires à l'heure actuelle. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut créer une menace. Donc, j'ai écrit j'ai commencé à écrire un livre de fiction, entre guillemets, dans lequel, suite à la guerre de Bosnie, les Américains arrivaient à rentrer en contact avec des groupes djihadistes en Bosnie. Et c'est là que mon réseau intervient, quand je vous parlais des personnes qui étaient au gradé au niveau de l'OTAN. J'ai rencontré un jour un général français qui était à l'OTAN, qui m'a dit clairement, alors évidemment je ne cite pas les noms, mais parce que je ne veux pas impliquer personne dedans, mais qui m'a dit très clairement, effectivement, on savait qu'il y avait des camps d'entraînement djihadistes en Bosnie à l'époque, mais l'ordre américain au niveau de l'OTAN était de les oublier, de ne pas les toucher. Il fallait se concentrer sur les Serbes.
Ce qu'on peut quand même dire, parce que c'est bien beau de dire ça, mais l'OTAN sert aux Américains quand même, puisqu'il y a des bases un peu partout dans les pays européens qui sont vitales pour les États-Unis quand même, mine de rien. Donc sinon, si l'OTAN n'existe plus, il faut qu'ils partent.
C'est ce que j'explique là-dedans, dans ce livre, et j'en profite pour, en définitive, en résumant très grossièrement, considérer que l'OTAN, c'est du business.
Bien sûr. Ils vendent des armes, des avions et tout ça.
52% à l'heure actuelle du budget de l'OTAN, c'est des armes qui sont achetées aux Américains.
Ben voilà.
C'est pour ça que quand on entend les menaces en disant « si vous ne faites pas ci, si vous ne faites pas ça, on fout le camp de l'OTAN », j'y crois pas du tout, parce que de toute façon...
C'est tirer une balle dans le pied.
Bah exactement. Bon, cela étant, avec Trump au gouvernement, on ne sait jamais s'il pourrait...
Oui.
Il serait capable de se tirer une balle de pied par erreur, mais bon, je crois pas.
Surtout qu'il est un peu particulier parce qu'il demande de l'aide aujourd'hui en disant qu'on n'a pas besoin d'aide finalement.
Exactement.
Donc c'est tout et son contraire avec lui.
C'est
difficile à suivre quand même, mais c'est quand même l'homme le plus puissant du monde finalement. Parce qu'on voit quand même le silence de Xi Jinping et de Poutine face à M. Trump. Tout le monde en a un peu peur finalement.
Je ne pense pas qu'ils en aient peur.
Mais ils le sentent un peu inconstant, donc ils ne savent pas trop sur quel pied danser avec lui, plutôt.
Ils ne savent pas trop sur quel pied danser, mais je ne pense pas qu'ils en aient peur. Parce que, alors, surtout les Chinois, même...
Non, les Chinois, ils font tout en loose-dé, de toute façon.
Même Poutine... Poutine,
ils sont plus intelligents.
Poutine a très bien compris que Trump, pour eux, Trump est fort avec les faibles, il est faible avec les forts. Voilà.
Ceci dit, il est un petit peu quand même embêté avec parce qu'il a quand même été 3 fois en faillite et c'est quand même les oligarques russes qui l'ont refinancé. Donc, quelque part, il est un peu redevable.
Alors, vous commencez à attaquer mon troisième bouquin.
Oui, ben, on va en parler, le troisième livre. Le lent déclin des démocraties occidentales.
Mais ce n'est pas 3 faillites, c'est 7. Hein.
Oui, 7. Ah oui, c'est 7 faillites.
C'est 7 faillites.
La vache.
C'est 7, donc c'est beaucoup plus.
D'accord, oui. Parce qu'en plus, dans la Trump Power, il y a des oligarques russes qu'on les apparte. Donc, quelque part, il est redevable. C'est pour ça qu'il est plus calme avec les Russes, quand même.
Exactement. Alors, j'explique ça dans ce livre-là, justement. Alors que j'ai commencé à écrire le jour de l'élection, de la seconde élection de Donald Trump en 2024, parce que je n'arrivais pas à comprendre comment il avait pu être réélu. Je veux dire, surtout quand on regardait les sondages, 15 jours avant, il était en retard dans les sondages. Et bien en retard. Il avait perdu le débat télévisé face à Kamala Harris, largement.
Oui. Mais elle est arrivée trop tard en campagne, à mon avis.
Oui, et puis autre chose, c'est une femme et elle est noire. Donc ça fait
voilà, ça, et puis elle n'a pas eu assez de temps pour faire campagne, finalement, parce que en même pas un mois ou 2 mois, c'est trop court.
Oui, mais malgré ça, alors, moi j'ai gardé l'habitude pour chaque élection américaine, comme j'ai vécu longtemps là-bas, de suivre tous les discours. Voilà, de suivre tous les discours et j'ai suivi l'élection sur CNN.
Et il y a quand même une chose que les gens ne connaissent pas trop, mais il y a quand même les grandes villes sont assez démocrates, mais les campagnes sont assez républicaines.
Toujours, c'est ce que j'explique, c'est lié aux mentalités et à l'éducation. Voilà. En définitive, un des plus grands dangers au niveau des démocraties, c'est le niveau d'éducation. Plus le niveau d'éducation baisse, plus vous êtes malléable, sensible à des informations, parce que vous n'avez plus de pouvoir d'analyse. Et ce que j'explique dans ce livre, justement, c'est quand on voit, par exemple, qu'au niveau de l'éducation, il a remplacé des gens qui étaient vraiment avec des compétences et des formations au niveau de l'éducation par Linda McMahon, qui était la présidence du catch américain.
Oui. Ou le ministre de la Défense, qui était un ancien présentateur télé.
Exactement. Mais attendez, ce n'est pas le ministre de la Défense. Hein. Ça a été rebaptisé, c'est le ministre de la Guerre.
Oui.
Donc ça veut tout dire également par rapport à ça. Vous avez plein de choses qui ont été faites. Vous avez par exemple le ministère qui luttait contre la désinformation, qui a été supprimé. Et pour motif, que c'était pour protéger les Américains. Alors, vous allez m'expliquer comment de combattre les désinformations, ça peut protéger les Américains. Je ne sais pas, il n'y a que les Républicains, les MAGA, pour dire ça.
Il a mis beaucoup de gens au chômage, finalement, il a manqué beaucoup de structures. Il veut rebaptiser aussi, parce que le Kennedy Center, maintenant ça s'appelle le Kennedy Trump Center, il y a quand même un petit peu de mélomanie là-dessus.
Il y a énormément, mais je fais le détail de tout ce qui... Alors, le Kennedy Center, je ne pouvais pas savoir à la base. Mais je fais le détail de tout ce qui a été mis au nom de Trump. Est-ce que vous saviez qu'en 2018 ou 2019, donc lors de sa première élection, son premier mandat, il faisait même de la publicité pour des raviolis.
Oui, d'accord.
Il y avait des boîtes de raviolis Trump. Donc, tout il peut faire, non, mais partout où il peut faire du pognon, il fait du pognon.
Oui, mais c'est un businessman, ce n'est pas un politique. Hein. Il l'a fait un peu pour déconner au départ, comme l'avait fait Coluche en 81 chez nous. Et puis, comme le parti républicain s'est bouffé le nez, ils sont zigouillés entre eux, il était tout seul, donc voilà. Mais ce qui est un point important, on parle de démocratie, et c'est vrai que quand les démocraties sont faibles, ça occasionne... Quand on regarde un petit peu l'histoire, on revient un petit peu en arrière quand même, hein, où le nationalisme remonte de plus en plus dans beaucoup de pays, on le voit, avec des libertés qui s'envolent. Les gens ne se rendent pas compte, hein, mais moi je sais qu'il y avait une phrase qui m'avait, quand j'avais vu dans le bunker d'Hitler avec Goebbels, quand Monk, le dernier général fidèle à la défense de Berlin, donc de Führer, et il vient voir Goebbels, il dit mais il faut évacuer les civils, etc. etc. Et là, je n'ai aucune compassion, il se peut qu'ils aient voté pour nous, en toute connaissance de cause, il se peut qu'ils se soient tranchés la gorge, tant pis pour eux, c'est extraordinaire, c'est dingue d'en voir une phrase pareille,
ouais,
c'est-à-dire que le peuple n'a pas d'intérêt à ses yeux.
Non. Et pour Trump, c'est strictement pareil. Pour Poutine, c'est strictement pareil. Et quand vous parlez de la baisse des démocraties et l'augmentation des dictatures, j'en profite pour citer dans ce troisième ouvrage une statistique qui est sortie par un organisme indépendant suédois qui s'appelle VEDEM. Et VEDEM a considéré que l'augmentation des dictatures sur 10 ans, en fonction de certains critères, était particulièrement importante parce qu'il considérait que 14% à l'heure actuelle de la planète était sous ce régime de dictature.
Ce qui est quand même dingue, c'est qu'il y a des gens qui se sont fait casser la figure pour qu'on puisse voter. Mmh. Et aujourd'hui, on a quand même beaucoup de taux d'abstention parce que les gens sont un peu dégoûtés de la politique quand on voit aussi nos politiques et les scandales, etc. C'est un petit peu dommage parce que dans certains pays, le droit de vote est obligatoire. Mmh. Ça serait peut-être intéressant de le mettre chez nous aussi parce que c'est quand même... on gueule, il n'y a qu'à Faucon, mais des fois, c'est nous qui avons le passe-partout avec les votes et les élections. Et je crois qu'il est important de rappeler aux électeurs, aux électrices, que c'est un droit fondamental, que nos anciennes générations sont battues pour avoir ce droit. Dans certains pays, ils ne votent pas. C'est quand même la démocratie, même si effectivement, il y a plein de problèmes. On est tous dans un marasme, la santé, l'éducation, etc. C'est pas la joie. C'est pas pour ça qu'il faut baisser les bras et qu'il faut aller vers ceux qui disent « il n'y a qu'à Foucault » ou qui critiquent. Je crois qu'il faut se prendre en main et c'est à nous de décider et de voter, finalement. Voilà.
Ça me fait très plaisir ce que vous dites, parce que c'est ce que je dis régulièrement justement aux gens, quand je présente le troisième bouquin.
C'est passionnant parce que finalement, vous voyez, on n'a même pas eu le temps de passer la deuxième pause musicale, parce que j'aime beaucoup les duos. J'avais prévu un duo que ça allait être avec France Gall et Michel Berger, Laisser passer les rêves.
Ah ouais.
Mais on ne va pas avoir le temps parce qu'il est déjà 15h28, ça passe très vite. Je rappelle quand même donc que vous avez écrit trois livres. Le premier, États-Unis, Russie, Je t'aime, moi non plus, aux éditions Baudelaire. Le deuxième, L'OTAN, ce tigre de papier, aux éditions Vérone. Et le troisième, Le lent déclin des démocraties occidentales, aux éditions Baudelaire. Est-ce qu'il y a des dédicaces ou des salons de prévus prochainement pour terminer ?
Tout à fait. J'ai une séance de dédicaces qui a lieu à l'espace Leclerc de Montmorillon le 4 avril prochain.
Voilà.
J'ai un salon du livre qui est prévu à Aytré, donc à côté de La Rochelle, le 11 avril prochain.
Mmh.
Et ensuite, je ne sais pas encore, je dois reprogrammer une séance de dédicace sur Châtellerault.
Oui.
Sans doute au début septembre, normalement.
Et puis, il faudrait venir au Salon du Livre de Chauvigny, fin septembre.
Ben, si on m'invite, en plus de ça, avec plaisir.
Oui. On en parlera.
Ça marche.
Bien, ben, écoutez, déjà, vous voyez, que ça passe très vite, une demi-heure.
C'est
la demi-heure des auteurs. Je vous remercie, Bruno et Carrie, pour ces discussions fort intéressantes. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et merci à vous.
Merci à vous Mathieu et merci à tout le monde. Au revoir.
Tournez la page. Votre émission littéraire animée par Mathieu Noirot.
Voilà. Eh bien, mes chers auditeurs, merci de votre fidélité à cette émission littéraire. Je rappelle pour les auteurs et autrices que c'est votre émission. Vous avez 30 minutes pour parler de vos ouvrages. Et puis, rendez-vous dans 15 jours avec une auteure d'Avail en Châtellerault. En attendant, bien évidemment, vous pourrez trouver cette émission en podcast sur notre site internet. Bonne fin de journée à l'écoute de nos programmes.